C'est reparti pour un tour.
Arthur, on est bon?
Captain Vantus speaking, we are okay.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30.
Beaucoup de local et un peu d'autres choses.
Sonotone.
Ok.
Lunettes.
Ok. Question édito.
Ok.
Et parfois des redis.
Génial.
Décollage immédiat pour les matinales de Bartas.
Sur le 107 FM.
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107. Nous sommes le mercredi 8 mars et il est 8h30. C'est la journée internationale du droit des femmes aujourd'hui. Grosse pensée à elle, mais sachez que pour nous, c'est tous les jours la journée internationale du droit des femmes. Il a les potards qui le démangent, à la technique, c'est Arthur. Salut Arthur.
Salut, salut.
Ta première matinale en direct, ça fait plaisir.
Et
ça,
oui.
Ça va?
Et oui, ça va, ça va.
T'attention, elle a combien là?
Pour l'instant, ça va.
Tout va bien,
22.
C'est sûr. Au programme de cette matinale, nous sommes avec Marc Lemonnier. Bonjour.
Salut.
Quel plaisir de t'accueillir. Tu es là au nom de l'association Les Amis de Roger. Roger Lagrave, un personnage emblématique de la région, et sa chère et tendre Marie, dont nous n'oublierons évidemment pas de parler dans cette matinale. Cependant, Roger, il nous a quittés il y a 2 ans déjà, en 2021. Il aurait eu 100 ans au mois de mai. Et avec votre asso, vous allez organiser pendant 6 mois des événements autour de la vie de ce couple. D'ailleurs, d'après ce que j'ai compris en préparant cette émission, c'est qu'on peut même dire des vies, tellement ils en ont fait des choses, et c'est incroyable.
Mais ce qui est bizarre, c'est que les Floracois et les gens du sud de Lozère n'ont eu qu'un seul aspect de sa vie, de leur vie, et ils pensent que leur vie se résume à cette période floracoise, alors qu'en fait, effectivement, il y a eu d'autres aventures de dingue qui ont fait ce qu'ils sont devenus. Justement, et on peut pas ignorer ces autres parties de leur vie, quoi.
Et on va en parler de tout ça et de toutes ces vies. Il y aura de la musique comme d'hab, et on commence par l'édito, bien sûr, si tu le veux bien, Arthur.
On peut être en désaccord, mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là,
ce n'est que l'édito des Bartas. Pour beaucoup, c'est un de plus. Pour d'autres, c'est un de trop. Et je me pose simplement la question. Pourquoi ? Un naufrage de plus, c'est beaucoup trop. Nos politiques s'en émeuvent quelques minutes sur BFM et sur France Inter. Quelques minutes à peine pour des situations qui durent depuis des lustres. Aucun reproche sur le fait que l'Europe ait accueilli en grande pompe les réfugiés ukrainiens subissant une guerre terrible. Simplement, pourquoi deux poids, deux mesures ? Pourquoi en est-on encore là ? À ce que je sache, il n'y a qu'en musique qu'une blanche vaut deux noires. Un être humain vaut un être humain, peu importe sa provenance, sa couleur ou sa religion. Alors, pourquoi en est-on encore là ? En 2015, la photo du petit Eylan, noyé, couché sur une plage, avait ému l'Europe. Tout va changer, nous disait-on à l'époque. Nos politiques allaient prendre des mesures pour que cela n'arrive plus. Presque 10 ans plus tard, nous en sommes au même point. SOS Méditerranée, pour ne citer que cette ONG qui œuvre et se bat chaque jour pour sauver des migrants en perdition, en fait le constat amer. Pire encore, le vendredi 3 mars, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé une subvention allouée par la ville de Paris à l'ONG, dont le navire humanitaire l'Ocean Viking porte secours aux exilés. 100 000 euros. Et voici les raisons de cette décision et les propos de la présidente du tribunal.
Attribuer la subvention litigieuse par la délibération du 11 juillet 2019, alors même qu'elle est accordée au titre des aides d'urgence, doit être regardée comme ayant entendu prendre parti et interférer dans des matières relevant de la politique étrangère de la France et de la compétence des institutions de l'Union européenne, ainsi que dans des différends de nature politique entre États membres.
Et elle ajoute également :
l'action de SOS Méditerranée a eu pour effet d'engendrer de manière régulière des tensions et des différends diplomatiques entre États membres de l'Union, notamment entre la France et l'Italie. Une collectivité territoriale ne saurait méconnaître les engagements internationaux de la France, ni, en attribuant une subvention, prendre parti dans un conflit ou un différend international de nature politique, ou interférer dans la conduite de la politique extérieure de la France, constitutionnellement réservée à l'État.
Ainsi donc, voici l'utilisation judiciaire de la Constitution française. C'est donc à l'État de prendre ses responsabilités pour éviter les bisbilles avec l'extrême droite italienne. Écœurant, n'est-ce pas ? Car pendant ce temps, et sans doute pour trop longtemps encore, des enfants, des femmes et des hommes ne verront jamais l'espoir d'accoster sur nos côtes européennes à la recherche d'un avenir. Sans doute même pas meilleur, mais simplement d'un avenir. Ouvrez les frontières humaines.
Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Y'a de bonnes, y'a de mauvaises, mais y'a des nouvelles pour vous. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Y'a de bonnes, y'a de mauvaises, mais y'a des nouvelles pour vous. Les morts ne se comptent plus par centaines, mais par milliers. Sur la route de l'immigration clandestine, on est familier avec ces images de corps sans vie vomis par l'océan. Autant de destins et d'espoir brisés en plein élan. L'arrivée en terre promise, c'est comme gagner au loto, mais y'a de l'eau dans le radeau qui mène vers l'Eldorado. À ce niveau, on n'est plus victime, on parle de statistiques. Chaque pirogue est un Titanic. C'est pas 10 000, ni 15 000, mais plus de 22 000 qui seraient morts dans ces pirogues depuis l'an 2000. Chaque année, en moyenne, il y a 1500 naufragés. Donc autant de familles ravagées. Les guerres et les crises sont les principaux alibis de tous ces migrants qui passent par le Maroc ou la Libye à la recherche d'une vie meilleure de l'autre côté de la rive. Mais la Méditerranée devient le tombeau de leurs rêves. Pour n'avoir pas su régler ses problèmes en amont,
mal gouvernance et pauvreté,
l'Afrique est coupable pour refus de trouver de plus durables solutions.
Richesse mal distribuée,
l'Europe est responsable. On a du mal à couper le cordon ombilical avec la mère nourricière, l'empire colonial. L'Afrique a faim, a soif et en quête d'idéal. Sous respiration artificielle, son économie va mal. Elle se laisse séduire par la pacotille venue d'Asie, vu que l'Europe favorise l'immigration choisie. Assise sur un magot, l'Afrique tend quand même la main. Yeah, son avenir reste incertain. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. L'Europe fait semblant de ne pas entendre nos prières. Comme dit Fatou Diom, on sera riches ensemble. Ou alors on va se noyer tous ensemble. C'était Crewman pour les haut-parleurs. À bon entendeur.
Ouvrez les frontières de Xuman. On va aller vers plus de légèreté tout de même. Puisqu'en plateau, nous sommes avec Marc. Merci d'être avec nous. Roger et Marie Lagrave, c'est de lui et d'elle dont il va être question ce matin. Marie est décédée en 2017 et Roger en 2021. Roger aurait eu 100 ans en mai prochain. Et à cette occasion, votre asso, les amis de Roger, organise pléthore d'événements sur 6 mois à partir de mai. On va parler de tout ça. Alors, je voulais commencer par une question que je pensais super simple. C'est-à-dire, qui est Roger? Et je me suis aperçu que c'était vraiment très compliqué. Alors, pour commencer tout ça, je vous propose simplement que Roger se présente lui-même.
Très tôt, j'ai voulu être instituteur. L'école normale d'instituteurs à Mantes, puis la Kabylie, le Sahara, le Cameroun, le Sénégal, la banlieue parisienne. Et nous voici, Marie et moi, les trois enfants, de retour en Lozère, à Florac, pour participer à la création du plan national des CEN. Pour les instituteurs, la retraite est à 55 ans. 55 ans. Mais que peut faire alors, que peut-on faire quand on est en bonne santé? Ayant toujours été attiré par les livres et leur contenu, j'entrepris d'éditer, ou plutôt d'auto-éditer, selon la formule, pour une plus grande connaissance des diverses réalités du Gévaudan et des Cévennes. Et c'est ainsi que j'ai inventé les éditions Gévaudan-Cévennes. Il s'agissait pour moi, toujours enseignant dans ma tête, de porter à la connaissance du plus grand nombre, de vulgariser les diverses réalités qui font ce département, sa géologie et sa géographie, sa préhistoire et son histoire, ses chemins et ses ressources. Durant une trentaine d'années, se succédèrent albums, cahiers, livrets de récits et de contes. Ce sont ces ouvrages qui sont exposés ici et qui témoignent qu'il est possible de mener à bien une entreprise d'édition en milieu rural en utilisant les imprimeries locales. Je cite l'imprimerie des Quatre à Marvejols, l'imprimerie du Gévaudan à Saint-Cyr-d'Apcher. Journée du livre à Mende ou à Marvejols, rencontre du Pompidou de Langogne, festival du livre à Florac ou à Saint-Enimy, journée du Pélardon ou de la Châtaigne, la production fut distribuée au public, fréquentant foires et marchés. Aujourd'hui, avec l'âge de l'ouvrier, quel peut être l'avenir de cette entreprise d'éducation populaire dont la Lozère, me semble-t-il, peut être fière? Arrêter tout simplement, comme s'arrête la vie. Poursuivre, mais comment? Avec quels moyens? De quelle façon? Avec qui? Une problématique à laquelle il faudrait répondre dans les meilleurs délais.
poursuivre, bah, c'est un peu l'idée de l'assaut Les Amis de Roger.
Ouais, je suis en plein dans ce témoignage là. Il est étonnant parce que je reconnais pas tout à fait la voix de Roger. Je pense qu'il est en train de lire quelque chose.
Oui.
Il lit un texte qu'il a préparé à l'avance. Mmh. Il a structuré son récit et c'est marrant de voir. En fait, ce témoignage, il apporte un sujet qu'il voulait porter, mais du coup, il a complètement zappé des parties entières de sa vie. Mmh. Là, bon, là, il passe sur 15 ans en Afrique, puis ensuite, il zappe carrément une première phase de sa vie en Lozère, où avant de créer les éditions Gévaudan Sieven, il a fait d'autres choses encore, on va en parler, on a ouais. tout le temps. Et voilà, et il ménage ses petits effets. C'est très rigolo parce que ça ne correspond pas tout à fait au Roger qu'on connaît, qui n'avait que rarement un discours si long, sans s'interrompre. Roger, c'était quelqu'un de très taiseux, qui était très intériorisé, donc, sauf quand il comptait. Et voilà, donc ça m'amuse ce témoignage. Et donc, pour répondre à ta question, poursuivre. Et avant même d'en arriver à la question des 100 ans et de l'association des Amis de Roger. Roger, moi, pourquoi je l'ai connu, pourquoi on l'a connu avec Sophie, c'est parce que vers 16, 17, quelque chose comme ça, il était déjà conteur depuis longtemps et déjà vieillissant. Mmh. Et il sentait qu'il n'allait plus pouvoir compter très longtemps. Et donc, il est venu à Supagro, qui s'appelait le CEP à l'époque, rencontrer quelques personnes, dont ma femme Sophie, et il leur a dit « ce serait super chouette s'il y avait des gens qui prenaient le relais, justement, de l'histoire, de raconter des histoires. Moi, vraiment, j'en ai plus pour longtemps, ce qui était faux, ça a duré encore 25 ans derrière, mais à l'époque, on ne le savait pas encore. » Et il nous a poussés à créer une dynamique de conteurs et conteuses locaux et locales qu'on a créé sur un peu son injonction, hein, qui s'est appelée Parole de Source, qui existe encore. Et voilà, ça a pris son envol, et ces jeunes et jeunes conteurs et conteuses ont commencé ce travail, et puis très, très vite, Roger s'en est désintéressé, parce que lui, quand il crée un projet, il passe à autre chose. Donc pour lui, c'était impulser, pousser des choses, et puis ensuite il a eu d'autres projets, et puis en fait les histoires que les gens de Parole de Source ont voulu raconter, c'était des histoires peut-être moins ancrées sur le territoire, plus cosmopolites et tout, alors que lui il avait une idée précise, c'était l'histoire locale, les contes locaux, etc. Et donc quelque part les élèves n'ont pas été dans la direction que le maître avait impulsé, mais bon, il nous a suivis de loin en loin, et voilà, c'est comme ça, je tenais à le dire, parce que ça a commencé vraiment par une rencontre qui était de son initiative à lui, avec la volonté de transmission, quoi.
Je vais quand même dire où j'ai récupéré cet extrait. C'était donc un hommage rendu par la mairie de Florac en juin 2018. Et effectivement, il est très stressé et assez ému de cet hommage. Et c'est extrait d'une vidéo de TV Image 48 que je salue et qui est disponible, évidemment, ouais, que je l'ai salué et je les remercie. Mmh. Alors, pas facile dans cette vie extraordinaire et longue de trouver un angle pour démarrer. Alors, commençons par le début, ou presque. Comment et où s'est passée l'enfance de Roger ?
Eh ben Roger, il est d'autour de Béziers. Mmh. Hein, la famille était installée là-bas. Moi, j'ai assez peu d'infos sur l'enfance, en fait. Roger est devenu homme public, on pourrait dire. C'est-à-dire cette période où on commence à avoir de l'information sur lui plus tard, à partir de ses études. Et donc, il y a cette période autour de Béziers dont je ne sais pas grand-chose, en fait. Donc, sauf que... voilà, il avait un pied dans le protestantisme. Voilà, il y a quelques éléments comme ça, mais et puis que il a passé souvent des vacances en Lozère. Mmh. Ça, c'est une certitude. Et déjà, quand il était petit, avant même qu'il fasse tout le chemin incroyable qu'il a vraiment amené en Lozère, la Lozère pour lui existait déjà. Et quelque part, il a su, c'est ce qu'il dit, hein, très tôt, que un jour il viendrait faire des choses en Lozère.
Mmh. Et qu'est-ce qu'il a fait ?
Par contre, pendant ce temps-là en Lozère, ce qui se passait, c'est que le Nord-Lozère, Lachan dans le Nord-Lozère, c'est le village de Marie, mm-hmm. et de la famille de Marie, qui est d'une lignée de mères. Les mères, c'était les mères de Lachan, hein, son père, son grand-père, c'était une famille très installée, et elle était destinée quelque part à prendre la suite et à devenir la mairesse de ce village avant de rencontrer Roger. Voilà, tout est en place.
Tout est en place. Et on va quand même en dire un tout petit mot, même si tu me disais hors antenne que c'est un épiphénomène, puisqu'il est trop jeune pendant la guerre pour partir pour le STO. Mais il est quand même allé, je crois, un été. Et puis c'est barré.
Oui, c'est-à-dire que les gens qui étaient, les jeunes qui avaient 16 ans, tout ça, qui n'avaient pas encore l'âge de partir au STO, on leur demandait quand même de faire des petits stages d'été. Donc il a été envoyé effectivement à Toulouse. Alors, je n'ai pas tout le détail, hein, mais ce que lui raconte, parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'info qu'on a sur toutes ces périodes-là, elle ne vient pas de ses enfants qui n'étaient pas nés, elle vient. On n'a pas beaucoup de sources, sauf ce que Roger nous a lui-même raconté. Mmh. Et quand on raconte des choses qu'on a 95 ans, qu'on raconte des choses qui sont arrivées 50 ans avant ou 70 ans avant, il y a une part d'oubli, une part de légendification. C'est un phénomène que connaissent très bien les gens qui font parler les anciens. Donc lui, il dit qu'il s'est sauvé et que voilà, il en a terminé comme ça avec cette histoire-là, qu'il est devenu quasiment, qu'il est rentré presque dans la clandestinité, je dirais. Mais bon, voilà, je pense que c'est... on sait qu'il n'a pas été plus loin que le STO et qu'il est retourné en Lozère, mais pas plus, quoi.
Alors là, on va essayer de croiser un peu entre les 100 ans et tous les événements que vous allez organiser à partir du mois de mai. Ça commencera le 8 mai. Tu t'y es beaucoup intéressé. C'est toi qui ouvrira le bal, hein, si j'ai bien compris, puisque il est parti pour l'Afrique. Il était instituteur. Alors, comment il se sent retrouvé là-bas? Parce qu'évidemment, c'est une épopée familiale. Hein.
Ouais. C'était des choix. Bon, il y a beaucoup à dire. Hein. À la fin de l'école normale, d'ailleurs, c'est dans cette période-là, c'était en pleine guerre, qu'il rencontre Marie peu de temps après, au cours d'un stage. Ils avaient un dernier stage à faire pour valider leurs années de... Et Marie se destinait à devenir prof d'éducation physique et lui, instit. Et dans un stage d'éducation physique, justement, ils se rencontrent. Alors là, la légende familiale, c'est toujours difficile de voir la différence entre la réalité et la légende familiale. Lui, devenu instituteur, n'avait pas tellement envie d'être instit dans une école de Lozère tout de suite. Il avait envie de bouger, quoi. Et il demande à partir à l'étranger. Alors, il ne demande pas l'Afrique au début, il demande juste plein de pays. Et puis finalement, il y a des places en Afrique, en Algérie, je crois, sur le premier secteur. Et là, la légende familiale dit qu'au moment de partir, là, il dit à Marie, avec lequel il n'était pas encore, « Je pars demain quasiment, tu vois. Si tu veux, viens avec moi. » Voilà. Et elle aurait dit oui. Donc, basculant toute sa vie, puisque abandonnant, tournant le dos à son avenir tout tracé de mairesse, de lâchant dans le nord de Lozère, et puis partant avec un inconnu. Voilà. Voilà ce que dit la légende, qui est belle au demeurant. Donc, il y a 3 ans d'Algérie sur lesquels, pareil, on n'a pas beaucoup d'infos. A priori, c'est un boulot d'instit de coopération, quoi. Puis 2 ou 3 étapes dans des petites écoles à droite à gauche. Et c'est là que vraiment intervient une étape vraiment complètement nouvelle. C'est-à-dire que ces deux-là se posent des questions pédagogiques sur qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on enseigne, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait avec les gens, quoi. Et donc, ils sont intéressés par les pédagogies nouvelles qui fleurissent à cette époque-là ou qui existaient déjà depuis quelques décennies, et en particulier à un certain Célestin Freinet et sa femme, Élise, qui ont ouvert une espèce d'école expérimentale en France, à Vence, dans les Alpes, et ils se disent qu'il y a moyen là de vraiment se former à des choses nouvelles, des pratiques nouvelles, et voilà, ça les passionne. Donc ils décident d'interrompre ce premier séjour africain. Enfin, ils postulent, hein, parce que le dit Freinet, je m'étends un peu sur Freinet, parce que ça fait partie des manifestations qu'il va y avoir dans les 100 ans, il va y avoir des choses un peu fortes autour de la pédagogie Freinet. On a une rue Célestin Freinet à Florac.
On y est.
C'est la rue de Radio Bartas et de Supagro. Et il y a toute une histoire entre Supagro, ex-CEP et la pédagogie Freinet. Il y a eu, enfin bref, je n'entre pas dans les détails parce que... Et Roger, qui est arrivé dans ces années-là, 70, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une rue Célestin Freinet à Florac, entre autres parce que donc, ce Freinet, il prenait des stagiaires. Il avait une espèce d'agrément pour avoir 3 profs de l'éducation nationale, ce qui était dingue, parce que c'était presque des pédagogies pas des pédagogies dans la droite ligne en tout cas. Et Freinet accueille 3 stagiaires par an, pour un an seulement. Ils postulent, Marie et Roger postulent, sont pris tous les deux, et ils rentrent d'Afrique pour passer un an auprès d'Élise et Célestin Freinet et se former. Et là, c'est le truc de dingue. Bon, c'est pareil, on pourra en parler pendant des heures, mais la pédagogie Freinet, c'est complètement différent, quoi. C'est vraiment l'autonomie, c'est vraiment les choses simples. Enfin bref, donc dans les pratiques, même pédagogiques, même dans les pratiques de la vie courante, le bain froid du matin avant d'aller à l'école, avant même par tous les temps. Enfin bon, faudrait vraiment y passer longtemps, mais pour eux, ça bouscule absolument tout ce qu'ils ont en tête. Et au bout d'un an, eh ben, ils sont mis dehors, comme tout stagiaire. Freinet a envie de former plus de gens, quoi. Et là, ils repostulent pour repartir. Et cette fois-ci, ils atterrissent au Cameroun. La sacrée tranche de vie qui commence et sur laquelle il est complètement passé. Et tout ce qui s'est passé au Cameroun préfigure tout ce qui va se passer après en Lozère. C'est pour ça que c'est vraiment des choses super passionnantes. Donc je ne sais pas si j'en parle maintenant de ce Cameroun. Je rentre dans le Cameroun.
Alors rentre dans le Cameroun et notamment, parle-nous des dessins des enfants de Pitoa.
Et oui, non mais voilà. Bon, alors ça les dessins des enfants de Pitoa, c'est la partie émergée de l'iceberg camerounais. Mais le Cameroun, c'est quand même une aventure globale qui aura duré presque 12-13 ans. On approche de l'indépendance du Cameroun. 1960, c'est l'indépendance du Cameroun. Donc là, on est quelques années avant. Et les Camerounais commencent, et les Français mettent en place toute une dynamique pour préparer la transition et former des jeunes Camerounais à monter, je dirais, en compétences et en savoir pour prendre le relais de toutes les équipes françaises, que ce soit dans l'enseignement, dans l'administration, dans la haute administration. Donc, et là, à Pitoa, au nord du Cameroun, se crée un espèce de lycée expérimental, je dirais, pilote, dans une vieille usine désaffectée. On crée un lycée pour ces futurs Camerounais qui vont prendre le relais. Et il y a 360 ethnies au Cameroun, 360 langues. On choisit des jeunes de 8 à 14 ans d'une vingtaine d'ethnies différentes. Ils ne parlent pas entre eux, ils comprennent pas. Ils ne se connaissent pas, on les concentre là-dedans. Mmh. On fait 6 classes, 260 élèves, et on donne 2 classes à Marie et Roger. Donc, vous imaginez le truc, quoi. Ces enfants... Donc, première urgence, c'est vraiment, il faut parler français. Puisqu'on ne peut pas travailler avec 20 langues différentes, il faut commencer à mettre en place la langue commune. Et ce sera un travail déjà de longue haleine et extrêmement intensif, mais que Marie et Roger vont mettre en œuvre pas du tout à la manière dont on s'attend et que vont faire leurs collègues d'à côté dans les classes d'à côté. Eux, ils viennent d'une année chez Freinet. Mmh. Et ils savent que si tu veux que des enfants soient à bloc dans leur capacité d'apprendre, il faut qu'ils soient hyper motivés, il faut qu'ils soient hyper créatifs, il faut qu'ils soient hyper poussés à aller dans leur... Donc, ils mettent en place tout un tas de choses qu'ils ont appris avant chez les Freinet. Et en particulier, alors je ne vais pas détailler tout évidemment, on va en venir à ta question quand même, j'arrive progressivement à ta question. Ce qu'ils ont appris de très fort auprès des Freinet, c'est en particulier la démarche artistique, la créativité, la liberté artistique. C'est-à-dire qu'un enfant, il est naturellement, il a une créativité artistique naturelle qu'on s'empresse de brider dans l'éducation normale pour la remplacer par des apprentissages plus rationnels, etc. Et donc, pour qu'un enfant, il apprenne des choses, il faut le laisser libre. Donc, ils installent un atelier permanent, une pièce spéciale. Ils font venir de France des couleurs, des gouaches super, des grandes feuilles de papier de qualité, des beaux pinceaux, des trucs comme ça. Il y a un flux continu de matériaux qui arrivent de France comme ça. Et c'est un lieu où les élèves peuvent aller quand ils veulent, selon leurs envies, leurs besoins. Alors, on leur donne 2 ou 3 consignes à peine, juste ne pas mélanger les couleurs, contourner les trucs pour... des trucs pour que ça simplifie, je dirais, que les élèves ne soient pas embêtés avec des problèmes techniques, mais c'est tout. Et ensuite, c'est autonomie totale, on ne discute rien, on ne retouche rien. Et c'est un processus qui va durer plusieurs années, et on s'aperçoit que... Et alors, sur ces dessins, ils servent ensuite à parler, puisqu'ils racontent des scènes de la vie locale, des autoportraits, des animaux réels ou fantasmés. Il y a un peu de tout. Et on voit au cours des années, les dessins qui partent de qui ressemblent à des dessins d'enfants, je dirais, comme on les connaît tous au début, et qui, année après année, se structurent, deviennent d'une expressivité complètement dingue, d'une esthétique néo. Alors bon, les gens qui s'intéressent à l'art contemporain font tout de suite le rapprochement avec des trucs de la période Picasso, quand il est devenu plus simpliste, ou des choses comme ça. C'est assez stupéfiant, effectivement. Donc là, bon, on pourrait en parler pareil pendant des heures. Il reste Roger et Marie ont gardé une cinquantaine, je dirais, de dessins. Il y en a beaucoup qui ont été dispersés, qui sont partis vers des associations du Cameroun, qui sont rentrés en France dans l'association Freinet. Enfin bref, ce pool de dessins s'est un peu dispersé, mais il en reste une cinquantaine qui sont revenus en France avec Roger et Marie. Et c'est ces dessins qui vont être présentés à cette exposition qui aura lieu à la Ronceret le 8 mai, si je ne m'abuse.
C'est tout à fait ça.
Mais évidemment, tu vois le contexte. C'est-à-dire que c'est le résultat criant de ce que cette pédagogie mise en œuvre là-bas a donné de vraiment incroyable. Et voilà, c'est une première étape, quoi.
Et donc, justement, pour croiser ça, le 20 juin, il y aura l'inauguration aussi. Donc, ce n'est pas les mêmes dessins, je suppose, des enfants de Pitois.
Ah si.
Ce sera exactement les mêmes dessins.
Si, si, ça va circuler, puisque la Ronceret ouais. est un lieu, on le sait, formidable, oui. où il se passe beaucoup de choses et où il y a beaucoup de demandes. Donc, les dessins de Pitois vont être à la Ronceret pendant un mois. Et puis ensuite, la Ronceret va accueillir d'autres expositions. De toute façon, les gens qui écoutent, allez à la Ronceret pour voir tout ce qui s'y passe à tout moment. Il se passe toujours des choses formidables. Donc les dessins de Pitois vont redescendre à Florac pour arriver au...
Le 20 juin. Et d'ailleurs, il y aura, puisqu'on en parle, hein, une causerie de Jean-Marie Toyer et Claudie, sa fille. Enfin, leur fille, pardon. La pédagogie freinée par Célestin et Élise.
Oui, l'idée c'est que chaque fois qu'il y a un petit événement, donc ces dessins sont prétexte à parler. Moi, le 8 juin, le 8 mai, je vais parler justement de l'histoire de la période africaine de la grave, de manière plus, un peu plus détaillée qu'aujourd'hui. Ça va tout à fait avec ces dessins. Et Jean-Marie et Claudie vont parler de la pédagogie freinée par deux aspects différents, évidemment. Jean-Marie Toyer a travaillé à Supagro, au CEP, et donc a été lié à toute cette histoire de l'arrivée du développement de la pédagogie freinée. C'est un sujet qu'il connaît très bien. Mais évidemment, et là c'est le moment d'en parler, on parle toujours de Célestin Freinet. Mmh. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Célestin travaillait avec Élise, sa femme. Et en fait, ils étaient un couple et ils ont eu le même apport pédagogique. C'est de là. Et peut-être même, il y en a qui disent que Élise, en fait, c'est elle qui avait toutes les bonnes idées. Et qu'elle les avait, qu'elle produisait de l'idée et que Célestin, lui, il mettait en place. Ce qui, quelque part, a été un peu reproduit entre Marie et Roger, qui ont eux aussi travaillé deux par deux. Et Marie a quand même beaucoup... Voilà, beaucoup, beaucoup amené de choses. Et finalement, en finale, Roger est plus visible que Marie aujourd'hui, alors qu'en fait, c'était vraiment un couple extrêmement productif. Et toute cette histoire-là, tu vois, ça prend un sens particulier aujourd'hui, cette journée du droit des femmes. Mmh. C'est quand même un schéma qui est universel, qui est toujours reproduit, que les hommes sont plus visibles que les femmes, alors que généralement, voilà, la production, elle est vraiment très partagée, quoi. Donc, oui, pour revenir à la causerie du vin, Jean-Marie va parler de la pédagogie freinée telle qu'elle a été théorisée par Célestin, mais Claudie, elle tient à parler de l'apport d'Élise, qui est... plus particulièrement sans doute cet apport sur les approches artistiques, etc. Enfin, des choses qui sont aussi importantes, quoi, et qui sont même fondamentales dans la pédagogie freinée, quoi. Voilà, bon. Donc, on rééquilibre un petit peu comme ça.
Petite parenthèse, on reçoit Madame le maire de Florac lundi, on va lui demander de renommer la rue Célestin et Élise.
Ce serait une super idée.
C'est noté, on lui en parlera la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'ils en ont gardé de leur expérience intrinsèquement de l'Afrique? Est-ce qu'ils en parlaient avec nostalgie? Comment ils en parlaient?
Mais tu vois bien, on vient de l'entendre dans le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure. Ils n'en parlaient pas,
ouais.
En fait. Ils n'en parlaient pas. Alors que là, ce que je viens de vous raconter là, bon, c'était une partie. Mais il y a eu d'autres époques qui ont suivi. Si, alors voilà, ce qui s'est... Je dirais, suite à Pitois, qui a duré 8 ou 9 ans... Mm-hmm. Ça a duré jusqu'en 1960. En 1960, l'indépendance. Donc, tous les programmes se reconfigurent. C'est-à-dire que tout d'un coup, les Français doivent partir. La formation des élites va continuer, mais sous d'autres formes, prise plus en charge par les Camerounais, etc. Et donc, l'école de Pitois, enfin en tout cas, le travail de Roger et Marie à l'école de Pitois prend fin et il se rapatrie à la capitale. Là, Marie va devenir plus classique, je dirais. Et Roger, lui, ne reprendra pas, et à ma connaissance, ne reprendra jamais le pur travail d'instit. Il a commencé à mettre le pied dans tout un tas de choses, de l'ordre des processus, comment on appelle ça, institutionnels. Donc là, il est en contact avec les ministères, tout ça, et il est embauché comme directeur d'un centre pédagogique, bref. Et là, il va commencer à mettre en place des projets grand public, je dirais, atypiques. Il crée là-bas ce qu'il appelait l'école sous l'arbre, je crois, un truc du genre, qui est pareil, encore ce type de projet et d'animation de l'éducation populaire où on donne beaucoup de place à l'expression libre, à la créativité, tout ça, ça a beaucoup de succès. Et c'est déjà en train de préfigurer tout ce qu'il va faire sur Florac, où il va, une fois qu'il sera sur Florac, lancer tout un tas de projets comme ça, très, très foisonnants dans tous les sens, dont les gens peuvent s'emparer et faire ce qu'ils veulent, quoi. Je dirais, pour moi, l'importance de tout cet immense moment d'Afrique, c'est la transition lente de un truc, on part d'un site normal et on arrive à des pratiques beaucoup plus ouvertes, où ils font plein de choses. Par exemple, aussi, voilà, gros moment, pour tous les projets éducatifs, il faut des outils pédagogiques, il faut des livres. Et ils n'ont pas de moyens d'éditer des livres. Donc Roger commence, c'est là que Roger commence à écrire lui-même pour créer les outils et les livres dont il a besoin pour ses enseignements. Donc là, lui, il va écrire une histoire du Cameroun, rien que ça. Il va écrire une littérature du Cameroun. Il va écrire tout un tas de petits fascicules sur des histoires de vie de Cameroun. Enfin bref, il écrit lui-même. Et puis comme il n'y a pas la maison d'édition pour l'éditer, il fait créer, en lien avec le mouvement Freiné, une maison d'édition spéciale pour éditer les bouquins que lui-même écrit. Enfin, c'est vraiment le truc. Et là, ça préfigure complètement les futures éditions Gévaudan Cévennes, où on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Au bout d'un moment, on fait tout, on installe le truc, et puis on lance les projets, quoi. Tout ça, c'est l'Afrique c'est là-bas qu'il a appris ça.
Donc c'est vraiment ce qu'il en a gardé. Alors on l'a abordé évidemment, mais il revient en Lozère, hein, Florac. Et j'ai pas bien compris, mais il va participer à la création du parc national.
Oui, alors c'est pas lui qui a été à l'initiative. On va pas jusque là, jusqu'à dire ça, mais il y a tout un tas de choses dans cette période un peu intermédiaire. En 1967, hein, ils reviennent en France en 67, après encore quelques petites aventures africaines sur lesquelles je passe. Et bon, là, il y a un an sur lesquels j'ai pas beaucoup d'infos. Là, la première année, ils atterrissent pas du tout en Lozère. Hein. Ils atterrissent à Choisy-le-Roi en région parisienne.
Wow.
Je pense que ça a été un choc horrible.
Ah oui, tu m'étonnes.
Parce que là, il y a dans l'histoire qu'on raconte, on raconte l'histoire officielle de Roger et Marie, mais il y a aussi la saga familiale qu'il y a derrière, les enfants, une vie quand même très complexe parce qu'on déménage tout le temps, parce que Roger et Marie changent de projet régulièrement, les enfants sont un peu ballottés dans, comme ça, il faut changer d'endroit, changer de copain tout le temps. Enfin bref, il y a toute une histoire qui n'est pas simple. Et puis on arrive à Choisy-le-Roi. Et là, c'est une année, je pense, pénible pour les enfants. Et bon, je sais que Roger travaille dans une administration, je ne sais pas laquelle. Bref, j'ai encore des choses à élucider. Et puis pendant ce temps-là, il y a toute une dynamique concernant le milieu rural qui se met en place en France, sur la revitalisation du milieu rural. Là, on est dans les années où c'est au plus bas, hein, 67, 70, vraiment là, que ce soit en Lozère ou dans d'autres départements de France, il y a besoin de faire quelque chose. Et donc, il y a toute une dynamique d'animateurs socioculturels qui est créée. Alors, pareil, là, ça fait intervenir plusieurs ministères différents, c'est complexe. Roger a conscience que c'est ça qu'il lui faut. Il ne veut pas revenir à instit dans une classe normale. Il veut être sur le terrain, faire brasser des projets, etc. Et il est sélectionné sur ce dispositif. Et il arrive à Florac. Je pense que c'est là d'ailleurs qu'il dit qu'il veut retourner en Lozère. Il aurait pu partir dans n'importe quel autre département rural de France, mais c'est là qu'ils choisissent de revenir en Lozère. Enfin, la boucle se boucle. Et c'est un dispositif où, qui est tenu par la Chambre d'agriculture. Enfin, c'est compliqué, hein, c'est des trucs étonnants, parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus ça. Je veux dire, les institutions, elles font des choses institutionnelles. À l'époque, c'était beaucoup plus flou et libre. Il fallait que ces gens-là participent à dynamiser le milieu rural, sans plus de contraintes et sans plus de... Donc, c'était extrêmement libre, sûrement flippant pour des gens qui n'auraient pas eu l'autonomie et le nombre d'envies et de projets de Roger et Marie. Et là, voilà, ils commencent à mettre en place des trucs, des animations, des veillées, tout ce qu'ils peuvent faire, qu'il se passe des choses, quoi. Et c'est exactement dans ces années-là que se met en place l'association de préfiguration du Parc national des Cévennes. Mmh. Ce n'est pas encore le parc. Ça se passe toujours pas comme ça, hein, les créations d'espaces naturels. Pendant plusieurs années, il y a une association qui commence à simuler ce qui pourrait se passer, quelles sont les possibilités, etc. Lui est embauché comme animateur là-dessus. Et donc, pendant quelques années, il continue ce même genre de boulot, mais en rapport avec le futur parc. Et puis après, naturellement, le parc se crée en 70, il intègre le parc et il continue ce même genre de boulot jusqu'en 75, où il atteint la limite des 55 ans à l'époque, comme il l'a dit, formidable. C'est pareil, ça prend.
On parlait pas de la fin de
la prend tout
spéciaux,
son sens aujourd'hui. Clair, Marie, pendant ce temps-là, je pense, était un site entre guillemets normal à Florac. Donc, ils étaient quand même bien occupés. Et en 75, avec la retraite, va commencer quelque part la vie de Roger et Marie que connaissent les Floracois. Parce que tout ce qu'on vient de raconter là, c'était beaucoup moins visible. Là, en 75, à la retraite, il y a du temps qui se libère pour des projets totalement personnels. Et là, c'est tout ce qu'on a connu de Roger et Marie, dont on va peut-être parler maintenant.
On va continuer la discussion avec plaisir. Et on va parler des événements encore et encore qui commenceront à partir du mois de mai. C'est la Journée internationale du droit des femmes. On écoute à cette occasion une chanson extraordinaire. Suzanne, le morceau s'appelle Salut.
Tu vas au boulot, tu marches seul. À la hauteur du H&M. Y'a un type qui gueule, eh, salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour le 4h. T'es si appétissante, je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter. Comment ça, t'as pas le temps? Et t'es pas célibataire, tu sais. Moi, je suis pas jaloux, viens dans mon lit, ça va te plaire. Aussi, faut arrêter de te plaindre. Là, tu l'as bien cherché. T'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi, c'est dangereux. Pire que le mal incarné. Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé. Souffle, serre les dents. Comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente. Marche sur le trottoir d'à côté. T'es une pouffe, c'est devenu courant. De longtemps, trois fois par journée. T'as un hume, peut devenir violent. Si tu donnes pas le vrai, bats-toi fille. T'es au boulot dans la réserve, tout le monde est parti manger. Le patron t'appelle dans son bureau. Deux minutes pour discuter. Salut Caro, aujourd'hui t'es ravissante. J'aimerais t'inviter à dîner un soir où ma femme est absente. Ouais, je sais que t'as un mec, mais ça c'est pas gênant. Ton joli décolleté me dit que t'es plutôt partante. On pourrait faire ça ici, tout le monde est parti. Ça fait longtemps qu'on se connaît, tu vas quand même pas refuser. Façon si tu dis non, moi j'entendrai un oui. Tu diras que je suis con, je plaiderai ton hystérie. Tu serais pas la première, passer sous mon bureau. Les filles comme toi font moins les fières quand elles veulent garder leur boulot. Alors maintenant tu vas te taire, t'en diras pas un mot. Si tu veux garder ton salaire pour nourrir tes marmots. Souffle, serre les dents. Comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente. Marche dans le couloir d'à côté. T'es une pouffe, c'est devenu courant. De l'entendre trois fois par journée. Un gentil peut devenir méchant. Faut pas croire au Disney. Bats-toi fille. T'es enfin chez toi, tu te poses sur le canapé, t'allumes l'ordi, t'as un message instantané. Hey, salut l'ami, t'es vraiment très sexy. On pourrait faire connaissance, je cherche un plan pour la nuit. Quand j'ai vu ton profil, je suis tombé direct amoureux. Du coup, je t'envoie une toffe de moi, ma tub et un cœur bleu. Ce que j'ai le plus aimé chez toi, c'est ton regard de chienne qui attendrait de bouffer depuis au moins une semaine. Je suis sûre que t'es du genre à dîner étoilé. Mais moi, je paierai même pas pour des nems à volonté. Parce que t'en vaut pas la peine, de toute façon, t'es comme les autres. J'ai vu que t'avais lu, mais bien sûr, tu fais la mort parce que tu te crois au-dessus. Tu t'es pris pour Rihanna quand je serai en bas dans ta rue. On verra ce que tu feras. Souffle, serre les dents comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche dans le couloir d'à côté. T'es une pouf, c'est devenu courant de l'entendre trois fois par journée. Un gentil peut devenir méchant. Faut pas croire au Disney. Bats-toi, fillette.
L'extraordinaire Suzanne avec ce morceau. Salut, on est de retour en plateau avec Marc et Arthur est à la technique. Nous sommes bien en direct et on parle ce matin de Roger et Marie Lagrave. On est en 1975, la retraite. Alors j'hésite quand on écoute entre la peur du vide pour Roger ou alors se dire bon bah maintenant qu'est-ce que je vais faire.
Ça je sais pas dans quel état d'esprit il était la veille de sa retraite. Mais il ne devait pas avoir peur de s'ennuyer. Parce que. Et je ne sais pas s'il avait déjà en tête tout ce qu'il allait mettre en place dans les années d'après. Et Marie, ce qu'elle allait mettre en place également. Mais ça a été très vite et très. Enfin, voilà. Il s'est passé quoi ? Il a comment ? Roger était quelqu'un qui aimait la randonnée depuis longtemps. Et là, il y a eu l'envie pour lui de. De porter la randonnée à un niveau de conceptualisation et de largesse culturelle vraiment tout à fait nouvelle. C'est-à-dire que il a voulu utiliser la randonnée comme un moyen de faire connaissance avec un pays en profondeur. C'est-à-dire d'aller à l'encontre de juste la marche pour se faire du bien au grand air, mais pour en profiter, pour rencontrer les gens, rencontrer la culture d'un lieu, et rencontrer voilà, tout ce qui fait un pays. Et il a créé très rapidement, après sa retraite, la revue et l'association Drail. Alors ça a été une époque incroyable. Je vous rappelle qu'ils sont arrivés à Florac en 67, il y a eu mai 68 juste après. Donc on est à l'époque où tu as des néos qu'on appelait des hippies à l'époque qui commencent à arriver de partout, pendant que les Cévenols continuent à partir. C'est encore, on n'a pas encore touché tout à fait le fond de la démographie de la région. Et donc, il y a un espèce de double mouvement comme ça, avec des gens qui restent sur le territoire, qui sont très différents les uns des autres, hein, ces deux populations. Les Cévenols qui restent, je dirais, et qui sont souvent ceux qui n'ont pas eu les moyens de partir parce qu'ils étaient trop vieux, ou certains qui restent par choix, hein, mais quand même. Et puis, ces espèces de hippies qui arrivent par choix aussi, parce que pour eux, c'est là que la vie va se faire, alors que pour les autres, la vie va se faire ailleurs. C'est vraiment une période où tout se mélange, où il y a beaucoup de... Il se passe plein de choses entre. Il y a des incompréhensions, hein, il y a même de la souffrance un peu entre ces deux. Et puis aussi beaucoup de belles histoires qui se passent. Et Roger et Marie, ils arrivent à peu près. Ils vont à peu près boucher le trou entre ces deux populations. Ils ont déjà 55 ans, une certaine respectabilité. Marie, elle a des origines du coin. Bon, enfin, c'est le Nord-Lozère, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, voilà. Ils sont à l'écoute des gens plus âgés, parce qu'ils ont déjà, ils sont déjà un certain âge. Et puis en même temps, ils ont voyagé, ils sont à l'écoute des gens des néos qui arrivent. Ils ont cette espèce de facilité à écouter les deux. Ils sont ce que Patrick Cabanel, dans son petit bouquin Roger Lagrave, une utopie en Cévennes, a appelé des médians. Il a appelé ça comme ça. C'est marrant parce que c'est des gens qui sont capables de s'insérer et de faire le lien entre ces deux populations-là. Moi, j'avais parlé jusqu'à présent je sais plus. J'ai employé un terme. J'ai toujours employé un terme et je viens de l'oublier en vous donnant celui de Patrick Cabanel. Bref, en tout cas, ils prennent ce rôle et ils vont commencer à proposer une activité qui va être à mi-chemin du loisir et de l'ancrage au pays. La rando comme outil de connaissance. La revue Dry, c'est ça, une Dry, vous savez ce que c'est, hein, un chemin qui sert, oui mais c'est un chemin particulier quand même, c'est un chemin qui est employé par les transhumances. Donc les grands mouvements de troupeaux qui va d'un pays à l'autre, enfin d'une région à l'autre, en traversant et en montant dans les montagnes. C'est un lieu de migration en fait, une Dry. Hein. Et donc voilà, il y a les touristes qui commencent à venir et puis il faut lancer une forme de découverte du pays beaucoup plus riche. Alors c'est marrant parce que vous avez entendu parler du projet Récréateur,
oui,
qui s'est déroulé sur le Flora, enfin la communauté de communes du sud de Lozère il y a l'an dernier et il y a 2 ans.
On salue Vincent d'ailleurs.
Voilà. Et ce projet, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait essayer de développer l'attractivité du territoire pour des touristes mais qui viendraient pas faire du sport bêtement, mais au contraire repartir en connaissant le pays, quoi. Donc, et puis faire en sorte que les gens qui vivent ici connaissent mieux leur pays. Et ça, 50 ans avant, c'est exactement quasiment l'exergue de l'association Dry. Voilà, alors donc là, bah, dans l'équipe de Dry, il y a tout un tas de vieux néos, je dirais, comme Roger et tout ça, qui ont 40, 50 balais, des gens qu'on retrouve encore aujourd'hui au Club Cévenol et tout ça. Il y a des locaux, il y a des locaux qui sont partis, il y a des gens, que, bah, justement Patrick Cabanel qui fait connaissance à ce moment-là avec ce mouvement. Et tous ces gens-là, ils organisent des randos à thème, ils achètent alors une aventure de dingue, ils achètent, ils installent des locaux. Alors à Chamballon, au début, ils se font prêter Chamballon et il y a c'est les premières époques de Chamballon avant que ça devienne ce qu'on connaît aujourd'hui. Ils achètent une maison au col de Perjuré qui est toujours là sur le bord de la route, qui est tenue à l'année par des gens qui font de l'accueil. Enfin bref, des trucs qui ont marqué à vie tous les gens qui ont participé à cette période parce que justement ça croisait les deux populations. Enfin bon, je pourrais en parler pendant des heures. L'aventure Dry dure 5-6 ans. Puis au bout d'un moment, on passe à autre chose et on crée... Dry s'arrête. On crée la revue Chemin qui élargit encore le propos. Là, Dry, c'était sur les Cévennes. Là, le chemin, c'est faire ça, mais à l'échelle de tous les lieux du monde où on marche et où on réfléchit, et on pense et on se cultive en même temps. Voilà. Tous ces deux étapes-là, ça dure une dizaine d'années. Et puis, c'est à partir de là qu'après une pause de 10 ans, Roger se remet à l'écriture.
Et d'ailleurs, son désir d'écrire, il va écrire sur les Cévennes, sur la Lozère. C'est un amoureux dingue de la région. Et comme il l'avait traversée de fond en comble, il la connaissait. Et d'ailleurs, il ne voulait se distribuer qu'en Lozère.
Ah, j'ai pas entendu dire qu'il voulait être distribué qu'en Lozère.
Parce que c'est une interview qu'il avait donnée à Radio Arthas en 2017, il me semble, ou c'est ce qu'il disait à l'époque. Maintenant, peut-être que ça s'est ouvert.
Bah, c'est raté, alors, parce que à la Bibliothèque nationale de France, il y a 114 ouvrages de Roger. non, ça a été très largement au-delà. Mais en tout cas, effectivement. Il reprend l'écriture sur le même mode qu'il avait fait en Afrique, ouais. C'est-à-dire j'écris sur les choses qui me touchent aujourd'hui. Donc en 78, si je ne m'abuse, sort le premier fascicule de cette innombrable série qu'on connaît aujourd'hui, qui inonde et qu'on trouve aujourd'hui au rayon librairie de Hyper U, autant que dans les petites, librairies du coin. Le premier tome. Alors c'est toujours des petits, vous voyez ce format, hein, c'est du A4 avec 30-40 pages, c'est pas très épais, enfin il y a eu plus gros, mais le premier s'appelle Robert Louis Stevenson, c'est vraiment emblématique, c'est sur quelqu'un qui voyage, qui vient d'ailleurs, qui découvre un pays, qui randonne, qui réfléchit sur la culture, voilà, pour lui, quelque part Stevenson, ça, déjà il y a en germe absolument tout ce qu'il y a dans Roger, parce que par plus tard, il va développer aussi... Enfin bref, je peux pas tout dire. Voilà, ça commence comme ça, l'écriture. Et évidemment, pas question de... Bah, de toute façon, aurait-il trouvé un éditeur ? C'est une question que je me suis toujours posée. Parce que c'est quand même des productions qui sont très singulières. Elles sont souvent donc assez petites. Elles sont un mélange permanent de... On pourrait presque dire ça comme dans les conférences gesticulées où on dit qu'il y a de l'information chaude et de l'information froide, c'est-à-dire de l'information très scientifique, entre guillemets, des faits, des choses comme ça, et puis des choses beaucoup plus personnelles. Mais dans les écrits de Roger, on fait pas toujours la différence. C'est-à-dire que on sait pas ce qui est de l'inventé et ce qui est de l'avéré.
C'est là où est son génie.
Mais non, mais alors voilà, mais c'est ça qui lui a permis de faire tout ça. Mais du coup, c'est un positionnement, j'irais littéraire, un peu particulier. On pourra, si on a encore trois sessions, on pourra parler de ça. Donc peut-être il n'aurait pas trouvé d'éditeur pour cette forme-là, je ne sais pas. En tout cas, du coup, il crée les éditions Gévaud dans ses veines. Alors, je voudrais parler des éditions Gévaud dans ses veines parce qu'il y a un projet en ce moment qui consiste à faire numériser à la Bibliothèque nationale de France tous les ouvrages de Roger pour qu'ils soient accessibles sur Gallica, en ligne. Bon. Et donc, je me suis occupé de contacter la Bibliothèque de France. Ils m'ont dit, mais c'est quoi les éditions Gévaud dans ses veines? Alors, je dis, bah non, mais quand même, vous ne connaissez pas les éditions Gévaud dans ses veines. C'est quand même... Et non, les éditions Gévaud dans ses veines n'existent pas. Je vous promets, ça existe. Hein. Il y a 300 bouquins. Oui, mais il n'y a pas de personne morale derrière. Il n'y a pas d'association, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien. Roger, quand il fait son premier tome de Stevenson, il l'écrit à la main d'ailleurs. Hein. Il écrit toujours à la main. Il fait des collages voilà, sur des feuilles. Il découpe des photos avec des ciseaux dans des revues. Il colle les photos. Et il emmène un espèce de paquet de feuilles à l'éditeur, à l'imprimeur, et l'imprimeur reprend tout ça, tape tout, colle les photos, numérise les photos qui sont souvent très pixelisées, vous voyez, parce que c'est du scan de photos déjà scannées, bref. Et puis, Roger dit j'en veux 300 exemplaires, et il paye de sa poche, et il repart avec sous son bras ses 300 exemplaires, ou 1000 selon les trucs, hein. Et puis, il va mettre ça sur une étagère dans sa cave qui croule sous des dizaines de milliers de bouquins. On a fait l'inventaire dernièrement. Et il vend ça lui-même. Voilà. Et il arrive quand même à en donner parce que ça intéresse les gens, ces trucs. Donc, on en retrouve un peu partout. Mais les éditions Gévaud dans ses veines, c'est un truc totalement informel, totalement personnel, qui n'a pas d'existence légale. Voilà. Et donc, à la Bibliothèque nationale de France, ils nous ont dit « c'est un cas unique ». On ne peut pas faire votre numériser ça parce qu'on ne sait pas qui est le propriétaire des droits, qui est. Enfin bref, il y a aucun cadre juridique. Voilà, donc c'est très drôle, c'est tout à fait Roger, il fait. Et sans se préoccuper de savoir si c'est dans les clous ou pas, mais il fait. Voilà, ça c'était vraiment une.
Mais là, ils vont quand même être numérisés ?
Eh bien là, pour l'instant, on cherche la solution. Okay. Il faut que les ayants droit, du coup, qui sont les enfants. Ouais. Puisque c'est un truc fasse une démarche très particulière. Enfin bref, on va trouver la solution. Ce serait trop bête que ça ne puisse pas l'être.
En tout cas, il y en a écrit des bouquins, c'est sûr que.
Eh ben, on a fait l'inventaire 240 fascicules.
240 fascicules.
Entre les premiers trucs africains et les derniers, quelques minutes avant sa mort. J'exagère un peu, mais il a écrit jusqu'à la dernière possibilité, quoi. Voilà, 240 avec des trucs qui font 30 pages et des choses parfois beaucoup plus. Il a même écrit des choses qu'on pourrait qualifier de romans qui font 100, 120, 130, 140 pages sur un truc romancé sur l'histoire d'un chef camisard ou des choses comme ça. Il y a de tout, quoi. Il y a vraiment du conte, il y a du roman, il y a de l'information historique. Il a écrit plusieurs documents historiques, en particulier le troisième d'ailleurs, hein, c'était dès 79 je crois, une histoire de Florac, qui a quelque part fait référence pendant longtemps. C'était un document un peu plus gros qu'on trouve encore, qui maintenant aujourd'hui évidemment est dépassé parce que la science historique et archéologique a progressé, mais qui a, je pense, vraiment nourri beaucoup beaucoup de Floracois, quoi.
On va parler de son jardin, parce que Roger disait j'ai un grand jardin, sans doute trop grand pour moi, et donc il adorait l'ouvrir.
Ouais, alors juste avant de parler du jardin, parce que j'ai peur d'oublier, et vas-y, que vas-y. Ce serait quand même très dommage, il faut parler pendant ce temps-là de Marie.
Ah ouais.
Donc Roger, on a vu que pour lui la retraite c'était pas du tout un problème, pour Marie non plus, en fait. Alors pareil, j'ai pas toute l'info sur elle, mais il y a quand même une grande réalisation de Marie qui s'est mise en place après la retraite. C'est la mise en place de l'association de danse Les Rayoulettes. Donc c'était vraiment une association pour danser, apprendre les danses folkloriques, on disait plutôt à l'époque, du coin. C'est-à-dire de l'Auvergne et voilà de l'Auvergne du sud Auvergne puisque on sait que en Lozère il y a peu de danses qui sont originaires de Lozère, on le sait, la Lozère s'est nourrie aux danses d'Auvergne plutôt et aux danses d'Occitanie, et donc cette association Marie l'a lancée et l'a animée pendant plusieurs décennies. Ça a pris une importance incroyable, c'est-à-dire que il y a eu des moments, il y avait quasiment une centaine de membres qui allaient. Je ne sais plus qui c'est qui m'a dit, c'est Claudie qui m'a dit l'autre jour qu'aujourd'hui, si on interroge les familles floracoises aujourd'hui, toutes les familles ont au moins un membre ou deux qui ont, à un moment donné, fait partie des Rayoulettes dans ces années-là, où il y avait beaucoup, donc des ateliers, des bals. Ça, je dirais, maintenu une culture de la danse, des danses folkloriques et traditionnelles qui, sans ça, aurait complètement disparu, quoi. Donc, c'était vraiment un projet de territoire, un projet ancré qui a fait beaucoup de bien. Voilà. Bon, ça a pris fin quand Marie a eu moins la pêche pour animer ça, parce que c'était quand même un truc énorme, quoi.
Tu m'étonnes.
Mais en tout cas, ça, elle a vraiment pris une place. Là, elle était vraiment dans un rôle d'animateur territorial pour revitaliser un pays. Ça, c'était très clair, quoi.
Donc, c'est là où oui, les deux sont inséparables et que Marie est devenue aussi une personnage publique. Enfin.
Ah, ben, c'est carrément.
Et on part sur son jardin.
Son jardin, voilà.
Qui était absolument magnifique. Et il cultivait des espèces très rares et exotiques. Il y a des choses qu'on trouvait que chez lui.
Oui, alors ça c'est moins ma partie. Il faudrait que Sophie, ma femme, soit là. Elle saurait en parler pendant des heures. Mais très tôt, le jardin a été ouvert. Donc à la salle Prunet, leur maison au bord de la rivière, ils avaient un grand terrain qui était une partie un peu en hauteur et une partie qui arrivait carrément dans la rivière, qui prenait l'eau, je dirais, à chaque épisode Sévenol. Et très vite, ils ont passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je pense que là, c'était plutôt Roger qui pilotait, d'après ce que j'ai compris. Il y avait une partie légumière énorme et une partie, effectivement, de plantes d'agrément qui venaient de partout, toujours avec cette grande curiosité. Et très vite, d'ailleurs, ça s'est transformé en jardin botanique, puisque toutes les personnes qui ont été dans ce jardin, on se rappelle bien de toutes les piles avec des noms exotiques de plantes, pour que les gens qui venaient dans ce jardin puissent apprendre, toujours apprendre, découvrir des nouvelles choses. Roger et Marie, ils étaient extrêmement poreux, c'est-à-dire que leur jardin était presque libre d'accès, ça faisait des échanges de plants, de légumes, enfin bref, c'était un lieu d'échange et de vie qui a été vraiment formidable. Et d'ailleurs, jusque dans les dernières années où il y a eu beaucoup de fêtes, des hommages à eux, mais aussi ils ont accueilli, moi je me rappelle, musiciens de Balépate à l'époque, je faisais partie d'un groupe, on a été tourner des clips dans leur jardin, avec les plantes, enfin bon, voilà, c'était un lieu ouvert, quoi.
Et d'ailleurs, le 23 mai, le jour de naissance de Roger, ce sera la fête là-bas. Ou ce sera, en tout cas, à la salle Prunet, c'est pas
le bal. Non, alors voilà, le bal Comté.
Oui.
Ah ben voilà, justement, tu vois, mais bravo, hein, tu es un excellent animateur de radio. Hein.
J'essaye.
Tu fais des transitions de folie. Hein.
C'est fou.
Oui, le bal.
Ça fait marrer les roues d'ailleurs.
Ce bal Comté, c'est quoi l'idée? Bah, c'est enfin de faire un truc qui met à pied d'égalité Roger et Marie. Et Marie, qui a donc animé ses rayouettes pendant des années, eh ben, on va faire un truc sur la base des danses folkloriques, les mêmes que celles qui ont été jouées et dansées à l'époque. Donc ce sera Tétralyre, le groupe dont fait partie ce même Jean-Marie Toyer, dont on a parlé tout à l'heure pour la pédagogie freinée, qui va en profiter pour raconter un peu l'histoire des Rayoulets. Donc il y aura une partie danse et il y aura une partie conte, mais pas l'un après l'autre, ce sera totalement interpénétré. On a déjà testé ça une fois, quand vous allez à un spectacle de conte, vous êtes assis pendant une heure et demie, et puis après voilà, on se lève, et quand vous faites un bal, vous dansez pendant deux heures et après c'est fini. Et bien là, ça va être un étroit tissage de danse et de contes qui vont s'alterner et qui vont permettre de parler de Roger et de Marie en parallèle, quoi.
Ce sera le 23 mai. Et parlons, avant de faire l'appel à idées, hein, puisque oui. c'est vraiment participatif, vous allez faire dans les écoles, donc si des gens sont intéressés, des instituts ou des profs, etc., avec Parole de Source, la Lozère de Roger racontée aux enfants.
Oui, parce que dans l'énorme panel de choses qu'il a écrites, on n'a pas parlé encore de la vie de conteur de Roger, ce qui est une énorme pan de sa vie. Mais bon, voilà, on arrive au bout.
Oui, on a encore le temps. Hein,
il a quand même lui-même beaucoup raconté lui-même des histoires qu'il avait écrites. Dans ces histoires qu'il a écrites, il y en a qu'il a écrites entièrement. en partant de rien, de ses intuitions à lui. Par exemple, une célèbre histoire, c'est celle de l'habitant au kilomètre carré, je ne sais pas si ça vous parle, où il brode sur le fait que statistiquement, il y aurait un habitant au kilomètre carré sur le Causse. Mm-hmm. Et donc, il fait un délire hyper drôle sur les habitants au kilomètre carré qui se croisent, qui se reproduisent entre eux. Enfin bref, ça c'est de l'écriture totale, il invente. Et puis, il a aussi beaucoup collecté. C'est-à-dire entendu des histoires, des ébauches d'histoires racontées par des gens du coin, qu'il a récupéré et qu'il a réécrit, étoffé, etc. Et puis il a aussi repris des contes qui venaient de plus loin, qui étaient déjà plus écrits. Donc il y a des centaines d'histoires comme ça. Et dans tout ce panel, il y a un certain nombre d'histoires qui parlent très directement du territoire. D'un aspect culturel du territoire, de la soupe de châtaigne, d'une forme, d'un paysage, d'un personnage. Donc, quelque part, ce panel d'histoire, si on en extrait ce qui concerne la Lozère, on brosse un paysage culturel de la Lozère comté, quoi. Mmh. Et donc, c'était l'idée que ça ne se perde pas. Parce que dans ce qui nous attache à un pays, le côté imaginaire est super important quelque part. C'est le cœur, quoi. C'est le rêve, c'est le cœur. Voilà, il n'y a pas que des choses concrètes qui nous attachent à un pays. Et donc, plus on insuffle ça aux gens, et en particulier aux enfants, plus on aide à faire du lien. Et c'est vraiment ce qui sous-tend ce petit sous-projet-là, c'est d'aller porter aux enfants dans les classes toutes ces histoires-là. Alors, parole de source qui a été créé par Roger et qui a beaucoup travaillé sur la base des histoires de Roger, s'est emparé de ça. Donc on est en train de mettre en place la forme de ce spectacle-là. Et l'idée, c'est d'aller le tourner dans les écoles de mai à la fin de l'année, dans les écoles qui le voudront.
Et évidemment, comme tu le disais, c'est un conteur, hein, Roger. Et il y a cette tradition, hein, bon, avec Parole de Source qui est reprise. Et justement, le 21 juillet à Bar-des-Cévennes et le 11 août au Magistol, il y aura des contes. Alors, soit des contes tout seuls, soit des contes mis en musique. Comment ça s'articule?
Il y a plein de formes. Hein. Le conte, c'est multiforme. Ouais, des fois, c'est une personne qui raconte des histoires. Des fois, c'est des histoires de vie. Voilà. Des fois, c'est mélangé. Alors, dans tout ce que tu viens de citer là, c'est deux choses très différentes. Le 21 juillet au Pont de Montvert, c'est vraiment une forme à la Roger. À Bar-des-Cévennes. Roger, lui, il allait compter tous les ans, il avait pris l'habitude d'aller tous les ans tout seul sur la place du Terron, la fontaine du Terron à Bar-des-Cévennes, raconter des histoires de Roger. Et les gens s'asseyaient sur la place tout autour de lui et l'écoutaient. Il parlait pas fort, hein, Roger, donc il forçait le silence. C'était très surprenant à voir. Donc là, on va faire la même chose. Hein. C'est pas la peine de faire du grand spectacle tout le temps. Hein. On peut faire des formes simples, c'est formidable. Alors que la forme qui va avoir lieu au Magistavol, il y a plusieurs étapes. Il y a une conférence, parce que Roger a écrit une histoire de... Alors, je ne sais plus lequel c'est. L'un des chefs camisards, je ne sais plus. Donc, il va y avoir une conférence et une lecture musicale par Brigitte Agulon.
Esprit Séguier,
voilà. Donc, c'est une forme avec un moment plus conférence et un moment plus lecture musicale. C'est un peu plus élaboré et ça va être super chouette aussi. Enfin, tout est possible, quoi.
Et évidemment, les mardis de la Place Auvert, extraordinaire. Donc là, ce sera tous les mardis de l'été.
Oui, qui ont été créés par Catherine Mort il y a quelques années et initiés par Catherine qui maintenant a quitté la région. Mais son projet perdure au-delà d'elle et tout naturellement, on se dit c'est typiquement l'esprit Roger, c'est-à-dire un lieu informel. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de machin, c'est dehors. Les gens s'assoient, en plus ce magnifique lieu de la Place Auber qui a une acoustique formidable, hein, ouais, franchement, en plein milieu de Flora, qu'on n'entend plus les bruits autour. Il y a ces arcs, ces trucs où on peut s'asseoir là, bref, voilà. Et l'autre aspect des mardis de la Place Auber, c'est que compte qui veut. Ça, c'est très fort. C'est-à-dire que si toi, Ben, il te sort quelque chose, tu peux venir t'intercaler et puis sortir ça. Alors, l'idée, c'est tout simplement de ménager des moments un peu spéciaux histoire de Roger là-dedans. Voilà. Donc, si vous avez des histoires de Roger à raconter, vous pourrez venir les raconter les mardis à 19h30, Place Auber.
Ça permet de faire aussi un petit clin d'œil à Catherine qui anime des mythes et légendes sur cette antenne. Et
elle le fait encore là ?
Bah non, mais on doit le rediffuser.
Et oui, voilà. Oui, d'ailleurs, attends, je veux quand même repréciser. Avec j'ai parlé de Parole de Source parce que c'est l'association de conteurs qui me concerne. Mais effectivement, il y a d'autres compteurs en Lozère qui ne font pas partie spécialement de Parole de Source et qui font tout autant de travail. Hein, voilà. Ce qui m'a amusé, c'est que Parole de Source, c'est vraiment né de ce souhait de Roger. Quoi.
Et transition toute trouvée pour parler de l'appel à participation. En fait. C'est un vrai désir que cet événement, ces événements, soient... que tout le monde puisse venir et proposer des idées.
Ben oui. C'est presque de la pédagogie freinée. Hein. C'est partir d'envie, d'élan, de créativité. La liste des animations que tu nous as présentées tout à l'heure, c'est pas l'association qui décide tout ça. C'est des initiatives individuelles qui disent « Ah ben moi j'ai envie de faire ça. Moi j'ai connu Roger sur tel aspect. Ah j'ai un lieu où il pourrait se passer quelque chose. » Voilà, donc... C'est l'état d'esprit, ce programme est complètement ouvert. Si vous qui écoutez, bah, vous avez quelque chose à dire ou à faire ou à proposer, ça peut être une rando, ça peut être un repas Roger-S, enfin j'en sais rien moi, ça peut être, je dis n'importe quoi, proposez-le. L'asso, elle est là pour réfléchir avec vous. L'idée, c'est quand même que les gens qui proposent sont les acteurs de la réalisation, c'est-à-dire que si vous proposez juste une idée et que vous la donnez à l'asso en disant « faites-le », non, ça ne va pas se passer comme ça, on est tous... dans l'assaut déjà impliqué dans nos propres projets, mais par contre on va tous réfléchir ensemble pour savoir comment aider chacun des porteurs de projets à mettre en place leur truc, et puis après ça va faire l'objet d'une communication centralisée où du coup ça va donner de la visibilité aux choses, mais ça peut rester extrêmement modeste. Voilà, n'hésitez pas à être à dire tout ce qui vous passe par la tête, quoi.
lesamisderoger.org si on veut vous contacter.
Ouais,
c'est assez simple, hein.
C'est simple,
et puis le site est plutôt pas mal fait. Est-ce qu'on a oublié quelque chose en fait, parce qu'on peut encore...
On a survolé tout.
Voilà,
quoi.
On a tout survolé.
Voilà.
Alors, auditeurs, auditrices, si tout ça vous intéresse, déjà, vous allez sur le site Les Amis de Roger, parce que là, c'est une mine d'informations. Voilà. Merci beaucoup, Marc.
Merci à vous.
Un grand plaisir. Ça commencera pour l'instant le 8 mai, mais sait-on jamais si quelqu'un veut organiser quelque chose le 7 mai, c'est avec plaisir. En tout cas, ce sera à la Roncette, c'est un grand trêve. Je mets tous les liens, toutes les infos sur notre site dans un instant. Les Amis de Roger, c'est l'association. Roger et Marie, ce sont des éternels, vraiment des personnes absolument incroyables. Merci Arthur. Oh boy. C'est la fin de cette matinale et on se retrouve lundi avec Flore Théron, maire de Florac. N'hésitez pas, auditeurs, auditrices, si vous avez des questions à lui poser, nous nous ferons un plaisir de les lui relayer. Envoyez-les-nous à contact@radiobartas.net. Prenez soin de vous, merci à toutes et tous de nous suivre. Restez bien sûr Bartas, on n'y est pas trop mal. On se quitte avec Juliette, un allié sans retour. À lundi, ciao.
Ce que j'oublierai, c'est ma vie entière, la rue sous la pluie, le quartier désert, la maison qui dort, mon père et ma mère, et les gens autour, noyés de misère, en partant d'ici, pour quel paradis, ou pour quel enfer. J'oublierai mon nom, j'oublierai ma ville, j'oublierai même que je pars pour l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de la poche, un peu d'argent pour un ticket de train. Aller sans retour, aller sans retour. J'oublierai cette heure où je crois mourir. Tous autour de moi se forcent à sourire. L'ami qui plaisante, celui qui soupire. J'oublierai que je ne sais pas mentir. Au bout du couloir, j'oublierai de croire que je vais revenir. J'oublierai même, si ce n'est pas facile, d'oublier la porte qui donne sur l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de sa poche, un peu d'argent pour un ticket de train, aller sans retour, aller sans retour. Ce que j'oublierai si j'étais l'un d'eux, mais cette chanson n'est qu'un triste jeu. Et quand je les vois passer dans nos rues, étranges étrangers, humanité nue, et quoi qu'ils aient fui, la faim, le fusil, quoi qu'ils aient vendu, je ne pense qu'à ce bout de couloir, une valise posée en guise de mémoire.